en vous rendant sur le site de la radio et sur les pages Facebook, Twitter et Instagram d'Aligre FM.
Aligre, ça fait 40 ans que ça dure.
Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Je reçois aujourd'hui dans Chute libre Aurélie Olivier pour son ouvrage Mon corps de ferme, publié aux éditions du Commun, et Juliette Rousseau, son éditrice, qui est aussi écrivaine. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et pour commencer, comme il est d'habitude dans Chute libre, je vais vous demander, Aurélie, de lire un texte de votre ouvrage.
C'est le texte qui ouvre le livre. Le tablier noué, les couteaux aiguisés. L'évidence glisse autant qu'elle tâche. Je t'engraisse, tu m'engraisses. Don contre don façon cochon. Au petit matin dans la cour, un cochon qui ne connaît pas le petit chat, qui n'a même jamais entendu parler de lui, un gros cochon est mort. Sur le gaz, le beurre roussit les abats. Entre les joues veineuses couperoses, l'alcool et le sang goûtent au menton. Pour sa pause, le boucher boit la sauce. Dans le hangar devenu boucherie, les femmes solides tournent la manivelle, remplissent les intestins avec la farce, rendent le cri du sacrifice comestible. Jacques, jeunesse agricole catholique. Jacques a dit : cultivons notre esprit d'entreprise. Jacques a aussi dit, cochon qui s'en dédie. Au tout début des années 50, un géographe français, Guy Ducoing, déplore le déficit de modernisation et la mentalité paysanne. Il tire les cartes et il écrit « Il faut faire aimer l'argent aux paysans ». Entre 55 et 75, lui et ses camarades défendent le remembrement. Une opération foncière qui permet de rassembler des parcelles pour faciliter la motorisation de l'agriculture. Les prés deviennent carrés.
Je suis à nouveau allongé sur un talus sauvé du remembrement. Le contraire de se tenir à carreau, ici, la végétation exulte autant qu'elle lutte. Espoir et vibration entre les jeux de lumière dans les feuilles de chêne. La possibilité d'entendre, entre les appels du clocher, plus dangereux et plus prometteur que la romance, les clapotis de la rivière. Les clapotis sont des clapotis, et les clapotis sont des larmes. Les clapotis sont des clapotis, et les clapotis sont des larmes. Alors, Aurélie, c'est ce corps de ferme que vous avez traversé dans votre enfance. Et vous y êtes toujours dans le corps de ferme ?
Régulièrement, ouais. Il reprend ses droits et puis je m'en échappe. Et c'est un peu ce va-et-vient permanent.
Mm. C'est assez rare et original, d'écrire sur la campagne, pas si profonde que ça d'ailleurs, de Bretagne, et sur son passé ou son semi-présent agricole ou agroalimentaire, je ne sais pas comment, parce que vous faites incidemment une critique du système agricole dans lequel on se trouve.
J'ai envie de dire quasi malgré moi, oui, parce qu'en fait, je n'aurais pas su parler d'autre chose. Enfin, c'est là où j'ai grandi, où j'ai passé les 18 premières années de ma vie. Donc, c'est ce qui m'a fabriqué. C'est une des choses, je crois, dont je sais bien à propos de quoi je peux écrire. Je saurais écrire. Et il se trouve que oui, évidemment, on est loin de la poésie pastorale.
Oui, mais on est dans une pastorale particulière, en tout cas. Et justement, il y a un poème dans lequel vous parlez des 18 ans. Je ne sais pas où il est, mais ce serait super de le lire. Vous avez 18 ans dans la ferme et puis 18 ans hors de la ferme.
J'ai vécu 18 ans à l'intérieur d'une ferme. J'ai vécu 18 ans à l'extérieur d'une ferme. J'ai la majorité des deux côtés. J'en ai assez des deux côtés. Contrairement à ce que j'avais imaginé, s'éloigner d'une ferme d'élevage, s'éloigner d'une ferme laitière, même très très loin, n'est pas y échapper. Le conditionnement est plus ou moins tendre à la première bouchée, mais quelques voyages plus tard, je sais qu'il n'y a pas de société séparée de la manière dont elle se lèche les babines, de la manière dont, sans fin, elle affame.
Ces 18 ans que vous avez passés hors du corps de ferme, à y penser peut-être aussi, qu'est-ce que vous avez fait? Comment se déprend-on du corps de ferme? Comment ça se passe?
Ce qui s'est passé pour moi, à partir de... Il se trouve que j'avais des bons résultats scolaires et une farouche envie de partir de là où j'avais grandi. Grâce à ça, en fait, j'ai été dans un bon lycée dans la ville qui était la plus proche, qui était assez loin. Donc, je me suis retrouvée dans un lycée où il y avait la bourgeoisie locale... où la bourgeoisie locale envoyait ses enfants, donc les fils de médecins, les fils de profs, il y avait tout un truc comme ça. Du coup, un accès à des gens que je n'avais pas rencontrés, parce que par exemple, à l'école primaire, on était quasi, je pense, enfants d'agriculteurs. Donc là, il y a un premier choc, quoi, qui me dit que le monde est certainement autre que ce que moi j'ai connu jusqu'à maintenant. Et voilà.
Et la ferme dans laquelle vous étiez, il y avait des animaux, évidemment.
Il y en a toujours. Il y a des vaches laitières et un élevage de veaux intensif hors sol.
Oui. Bon, il y en a beaucoup boucherie. De veaux. Combien vous en avez?
Plusieurs centaines qui passent 4 mois avant de partir à l'abattoir.
Alors, on ne les connaît pas, justement.
Non, ils n'ont pas de nom. Ils sont... Ouais.
Il y a toute une dimension importante, je trouve, dans votre ouvrage, donc dans Corps de ferme, qui est publié aux éditions du Commun. C'est le statut de la femme dans le monde paysan, enfin des femmes dans le monde paysan, qui sont un peu... Vous me faites des parallèles avec les animaux, d'ailleurs, à certains égards, par moments.
Ouais, je pense qu'il y a clairement une métaphore sur l'exploitation du vivant et les êtres qui sont les plus dominés, à savoir, de manière générale, les femmes, les enfants. C'est comme s'il y avait une métaphore où tout se mêlait finalement.
Et c'est quelque chose qui vous... Comment dire, cette conscience-là que vous évoquez clairement, c'est quelque chose qui vous est venu rapidement? Quand vous étiez petite, vous aviez ce sentiment-là? Ou pas? Ou c'est venu par des lectures, par l'éloignement, par la réflexion? Comment ça...
Non, instinctivement, j'avais un gros sentiment d'injustice qui n'était pas nécessairement partagé, mais je le sentais, je sentais des choses, je ne savais pas les nommer, et je crois que j'ai réussi à les nommer grâce en écrivant, quoi. Un peu dans... J'aime beaucoup Audre Lorde, et dans son texte « La poésie n'est pas un luxe », elle écrit ça, quoi. Écrire de la poésie pour réussir à comprendre finement. Et moi, j'ai écrit ce texte pour comprendre ce qui s'était joué pour moi. Je le comprenais dans mon corps, mais je ne savais pas l'expulser, quoi. Je ne savais pas le nommer, le partager.
Qu'est-ce que ça veut dire comprendre finement?
Avec toutes les ambivalences que ça comprend, en se débarrassant de tous les clichés qui sont véhiculés sur la campagne, en essayant d'être le plus juste possible dans ce qui s'était joué pour moi.
L'inséminateur enfonce son bras dans le gant en plastique. Le gant en plastique enfonce le taureau dans la vache. Gestation, 9 mois et 10 jours, forceps, vélage et inscription sur le registre de l'exploitation. Après 6 vélages, la vache disparaît, l'abattoir assure sa traçabilité.
Et aussi, du coup, finement, c'est aussi montrer les paradoxes de l'affaire, quoi. C'est à la fois comment assurer la traçabilité d'une disparition. Donc, c'était tout ça que je voulais saisir, quoi, en écrivant.
Et alors, vous avez vous-même écrit ce livre comme un livre, ou d'abord, c'était des textes que vous avez extirpés de vous-même, je dirais, et puis, avec l'envie de faire un livre, ou simplement des textes comme ça, et ensuite que c'est devenu un livre. Comment est le processus de publication, j'allais dire, ouais. Concret.
Au départ, il y avait des poèmes que j'ai agencés ensuite, et puis j'ai rencontré Juliette Rousseau. Et là, je crois que ça a accéléré le processus du texte qui devient un livre.
Mais alors, Juliette Rousseau, vous êtes non seulement éditrice, mais écrivaine plutôt, mais aussi une personne qui a vécu à la campagne pendant longtemps et qui a une expérience peut-être pas similaire, mais pas si lointaine que ça, de celle d'Aurélie.
Oui, alors je vis de nouveau à la campagne où j'ai grandi, et j'ai grandi dans une campagne, et je vis dans une campagne agro-industrielle très semblable sans doute à celle où a grandi Aurélie, effectivement.
Agro-industrielle, comment c'est aussi de l'élevage ou c'est plutôt des grandes cultures, comme on dit?
Alors, chez nous, c'est maïs, blé, vache, voilà.
D'accord. Et le maïs et le blé servent à nourrir les vaches ou pas?
Pas forcément. Pas. En tout cas, c'est principalement des fermes laitières, ouais.
Et alors, vous avez quitté, puis vous êtes revenu ou vous n'avez jamais quitté?
Si j'ai quitté, comme Aurélie. Je suis partie dès le lycée aussi. Je suis partie en internat, pareil, j'ai mis tous les moyens de mon côté pour partir le plus vite possible. Mais je suis revenue régulièrement, en fait, jusqu'à revenir vraiment quand j'ai eu un enfant. Je me suis réinstallée dans mon hameau d'enfance. Ouais.
Et alors lui, l'enfant, votre enfant, il va pas faire le même périple, c'est-à-dire repartir en lycée? Parce qu'il y a aussi des matérialités concrètes, c'est-à-dire les lycées ne sont pas disséminés dans le territoire, il faut aller jusqu'au lycée.
Probablement, elle fera la même chose que moi, c'est-à-dire partir en internat, et presque je lui souhaite, parce que... Bon, pour tout un tas de raisons, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais par contre, la vraie question, c'est, vu l'évolution du territoire, qu'est-ce qu'elle va, elle, en retirer? Quel lien elle va nouer avec ça? Je peux faire que des hypothèses.
Mais vous n'habitez pas dans un corps de ferme actuellement?
Non, j'habite dans un ancien corps de ferme et voilà. J'habite dans un hameau dans lequel il y a une ferme en activité.
D'accord, oui, donc. Et votre fille, puisque j'ai bien compris, c'est une fille, fréquente la ferme? Enfin, ça l'intéresse,
c'est des... Alors, sujets... pas du tout. Non, pas mais dit. Moi, quand j'étais petite, c'était une ferme plutôt qu'on pourrait dire traditionnelle, ouais. Donc polyculture, élevage. Et j'y étais tous les jours dans la ferme. J'étais dans la stabule beaucoup, j'allais voir les cochons, j'avais un rapport très familial avec le couple de fermiers. Et puis, quand ils sont partis à la retraite, la ferme a été reprise par un agriculteur qui n'habite pas là. Donc, c'est vraiment juste, il se sert à peine des hangars et en fait, la ferme est louée. Mmh. Donc, lui, il exploite les parcelles alentour, mais il n'habite pas à cet endroit-là. Et donc, ma fille n'a pas du tout ce rapport, en fait, avec la ferme que moi, j'avais. Et je ne sais pas, en fait, si, en tout cas, dans les alentours immédiats, il n'y a plus de ferme comme celle avec laquelle moi, j'ai grandi.
Et celle-là, elle va perdurer, pensez-vous, cette ferme-là, ou elle risque de disparaître?
Moi, je pense que cette agriculture-là va disparaître très, très, très vite. J'habite dans une région dans laquelle il n'y a plus d'eau, on est en état de sécheresse. Voilà. Donc, je pense que c'est un modèle agricole dont on voit vraiment, vraiment les difficultés déjà aujourd'hui.
Il y a dans vos poèmes un poème où vous parlez presque des statistiques de l'agriculture. On en parlera tout à l'heure. Avant, on va écouter un morceau de musique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Μεν αίζω εις τ' αγάρωσε παιδέ.
En moins de 30 ans, la part de la région Bretagne dans la production nationale est passée de 7 à 12% en viande de gros bovins, 9 à 21% en production laitière, 8 à 30% en viande de veau, 5 à 35% en aviculture, 13 à 52% en viande porcine. En tout, la Bretagne représente 22% de la production animale française en 85, avec un taux moyen de croissance supérieur à 500%. Si les enfants sont bosseurs, certaines exploitations familiales font des exploits. En 1976, 67 ans après les salariés, les paysannes ont un congé maternité. 14 semaines pour les salariés, contre 14 jours pour les paysannes. En 86, le congé est allongé. 16 semaines pour les salariés, contre 8 semaines pour les paysannes. À minima, l'élevage s'annonce intensif. En février 86, un cri perce les couches de neige. C'est l'isolement d'une mère qui s'ignore totalement dans sa chambre d'adolescente. Il se passe quelque chose de sanglant et d'inédit à la ferme. Un bébé craque le déni. Les corps de ferme catholique tremblent sous les secousses de l'inattendu. Il faut nettoyer, ordonner, habiller, marier les jeunes gens, baptiser l'enfant. Bien comme il faut, sort sa faux. Au pas cadencé, expier la faute, damner les cons et surtout, 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 ne pas faire d'histoire. Malheureusement, pour les non-dits et les on-dits, l'inédit, c'est moi. 30 ans de silence, ça laisse le temps de chercher ses mots. Pire que la fille interdite, la fille par ses mots dites.
C'était un extrait de « Mon corps de ferme » d'Aurélie Olivier, lu par Aurélie Olivier, aux éditions du Commun. Je vais lire moi un tout petit morceau. « Cochons-nous, bien de chez nous. Le bien-être animal est une priorité. Il est tué selon le protocole, une fois mis en sécurité. Les enfants, encore en pyjama, les techniciens sont accueillis au café, lait, choc à pic, produits phytosanitaires, tout est mélangé. Mon corps, de plus en plus, se renferme. Les bâtiments sont désinfectés, au Karcher, ni vu ni connu. La mort est dit simulée. Dans les cages d'étourdissement, la palpitation de la vie est abattue. » C'est un constat terrifiant, hein, de... On le sait, enfin on le sait, certains le savent. Mais c'est terrifiant, cette espèce de froideur de la mort qui circule quand même dans tous ces textes, enfin dans tous ces textes sur l'activité agricole, agroalimentarisée que vous évoquez et que vous avez croisé et qui ne s'arrange pas.
Ouais, et ça m'intéressait justement de mettre ça en lumière grâce à mon texte, parce qu'en fait il y a toute... En fait, dans toutes les ressources que j'avais à l'époque, avant de découvrir d'autres sources d'informations, il y a quand même un endoctrinement qui est super fort, qui fait qu'il y a une banalisation totale en fait, de cette violence. Donc, on a l'impression que c'est comme si la mort n'existait pas. Et c'est donc que la vie n'existe pas, quoi. Donc, il y a un truc. Et moi, ça m'intéressait de mettre ça... de faire entendre ça, de réussir à faire entendre ça, alors qu'il y a un aveuglement général et en même temps, on comprend pourquoi. Enfin, personne n'a envie de voir comment on mange et ce qu'on mange. Enfin, ça demanderait un changement radical de société. Donc, voilà, il y a très peu de gens qui ont le courage de défendre ça aujourd'hui.
Mais c'est curieux. Enfin, moi, la proposition que vous évoquez est de dire la mort n'existe pas. Même si elle est là, la vie n'existe pas. Moi, c'est pas forcément sûr que la vie n'existe pas en tant que telle, mais la vie, une vie qui corresponde honnête, décente, en quelque sorte, heureuse possible, vivante, n'existe pas liée à cette mort-là. En tout cas, ça constitue une drôle de vie, mais elle existe, la vie, de fait.
On fait comme si tout ce qui était vivant n'était pas vivant, quoi. Je sais pas, c'est ça.
N'était pas pleinement vivant, n'était pas considéré comme vivant.
Ouais, était considéré comme un truc... Enfin, le vivant, c'est pas rentable, quoi. Et donc, du coup, il y a un truc comme ça d'assèchement du vivant en permanence. Ah, oui. Et ça, ça va sur les animaux, mais ça finit aussi sur les gens.
Bien sûr.
Ouais.
On est, comme on dit, ce qu'on mange, hein, aussi. Ouais. Et donc, c'est impressionnant. Mais à la fois, il y a quand même des... Pour revenir dans... Il y a quand même des mouvements de gens qui font une agriculture... Qui souhaitent faire une agriculture différente. Des confédérations paysannes, par exemple, qui travaillent la question fortement et qui...
C'est clair.
Dieu sait, essayent de faire des choses, mais ça ne marche pas facilement. D'accord.
Ouais, mais à vrai dire, moi, pendant les 18 ans où j'étais en Bretagne, j'ai pas, absolument pas eu accès à ces gens. Donc, j'écris depuis cet endroit-là. Mais maintenant, aujourd'hui, je sais, mais du coup, je me sens pas nécessairement l'autorisation pour en parler. Je sais qu'il y a d'autres possibles, des gens qui très courageux, qui défendent d'autres modèles, qui se battent pour d'autres modèles. Mais moi, j'en ai pas parlé parce qu'en vrai... Pendant ces 18 ans-là, ces gens-là apparaissaient comme de doux rêveurs complètement, des huluberlus, quoi. Et donc, il y a un truc comme ça de... c'était vraiment super lointain, quoi. Enfin, ça n'existait pas. Et là, je suis retournée dernièrement en Bretagne, je suis tombée sur le télégramme. Donc, j'ai lu le télégramme dans un café. Et en fait, ils sont toujours aussi invisibles, hein.
Oui, dans certaines régions où ils se cachent.
Après, c'est aussi que c'est un modèle économique qui repose sur un niveau de productivité en Bretagne. C'est pas juste la Bretagne pour la Bretagne. Enfin, la Bretagne est prise dans un système économique qui la dépasse et qui fait que, de manière générale, quand bien même il peut y avoir de plus en plus de gens à vouloir pratiquer une agriculture bio, et d'ailleurs l'agriculture bio, enfin, c'est une part du marché grandissante, mais c'est un marché qui repose quand même, de fait, sur une agriculture industrielle. Et donc, de ce point de vue-là... il me semble que l'expérience de l'agro-industrie en Bretagne est quelque chose qui ne peut pas être dissocié de la société dans laquelle qui la produit et qui a besoin en fait de ça. Elle a besoin que les corps soient mis dans cette disposition-là vis-à-vis du vivant, que les existences soient mises dans cette disposition-là vis-à-vis du vivant.
Et à la fois, c'est très particulièrement visible peut-être en Bretagne où il y a une identité culturelle qui fut forte ou qui a été forte, je ne sais pas comment dire, et où il y a modification de cette agriculture intensivement industrialisée, sont très visibles, parce que ça a modifié considérablement les pratiques, les comportements, la culture, etc., sous un couvert aussi, parce que vous évoquez la religion, vous évoquez sous le couvert de comportements encore traditionnels par ailleurs. C'est paradoxal, ça.
Ouais, ce qui est paradoxal, en tout cas la JAC, la Jeunesse Agricole Catholique, et en même temps il y a ce truc qui est défendu, qui à un moment donné, en même temps je pense, permet de faire collectif, mais il y a ce truc d'entreprendre, et aussi pour sortir de la misère.
Non, parce qu'on voit assez mal le message pur du Christ, être favorable à 300 petits veaux parqués et abattus au bout d'un certain moment en mangeant que des trucs automatiques. C'est effrayant. Je veux dire, c'est effrayant.
Je ne me risquerais pas à interpréter le message du Christ aujourd'hui.
On voit moi non plus, je ne me risque pas. Je m'interroge sur la continuité qu'il y aurait entre...
Il a bien servi à justifier la colonisation. Du coup, je pense qu'on peut faire dur à peu près.
Je ne parle pas de l'Église. Je
ne
parle pas de l'Église, je parle de
Mais je parle de ça à dessein, parce qu'il y a vraiment, dans l'histoire de l'Église catholique en Bretagne, déjà quand même, il y a un rapport particulier du territoire à l'Église catholique et en retour. Hein, il y a eu un rapport d'influence mutuelle assez fort, mais il y a aussi au XVIIe siècle toute une logique d'évangéliser la Bretagne avec les mêmes méthodes qu'on utilise à ce moment-là au Canada. Donc il y a vraiment un enjeu à mettre au pas quelque part les populations bretonnes qui sont considérées comme trop déviantes dans leurs pratiques spirituelles, en les considérant quelque part comme on considère les populations colonisées au Canada, comme des barbares. Et donc je pense qu'il faut vraiment comprendre que cette relation mutuelle de l'Église avec les populations bretonnes, elle remonte à très très loin, et elle est ancrée dans des rapports de pouvoir qui sont pas aussi simples qu'une imposition du pouvoir de la part de l'Église. Encore une fois, c'est réciproque, mais c'est une très vieille histoire.
avant les années 2000 sous la Troisième République, dans le cours des sciences de la vie et de la terre, les protections hygiéniques sont offertes aux filles par Nana. À 12 ans, les filles sont devenues des femmes qui s'ignorent. Certaines prédisent que les vicieuses qui sucent sur le parking du collège finiront seules. D'autres que si le sang est marron, tu es enceinte. Leurs corps alignés par les régimes sont préparés à coups de questions récurrentes qui résonnent bien dans le vide. Tu veux combien d'enfants ? Les garçons font des ballons de baudruche avec les préservatifs, s'offrent des tabliers avec des seins en plastique aux anives. Les filles touchent avec les yeux les soutiens-gorge aux rayons lingerie de l'Intermarché. La pilule du lendemain n'existe pas à la pharmacie du bourg. À intervalles surprise, une génisse est portée disparue. Votre fin, elle est violente. Hein, la fin du poème, je veux dire, c'est impressionnant, cette espèce de lien entre ceci et cela.
Mmh. Bah, et en même temps, c'est une fin en fait assez, pour moi, assez lumineuse. Parce que pour moi, la génisse, c'est vraiment l'animal donc, qui n'est pas encore une vache, qui n'a pas eu de petits veaux, qui n'a pas été exploité pour son lait. Et elle a encore une liberté folle. Et en fait, c'est tout le temps elle qui s'enfuit du champ. Enfin, c'est toujours, il faut toujours aller, enfin, régulièrement aller chercher cette génisse qui a disparu. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la figure de la liberté, quoi. Et donc, et d'échapper ça à ce rapport au corps qui est bah, super normalisé, assez loin de... Enfin, ouais, dans l'ignorance et loin de... Et l'ignorance du plaisir aussi, quoi. Ou de la possibilité du plaisir.
Mais c'est totalement... Enfin, il y a un côté sombrement obscurantiste dans ces comportements-là, quoi. Voilà, c'est...
Bah, ces comportements-là, mais... Enfin, même, je pense, encore aujourd'hui, il y a une ignorance qui est diffusée. Enfin, une honte, en fait. Une honte qui est transmise, honte de son corps, enfin, et ça va avec l'ignorance, il y a tout un tas de sujets dont on parle pas, et du coup, bah, on fait avec les moyens du bord, quoi, on apprend comme on peut avec les ressources qu'on a, enfin, alors, en l'occurrence, dans mon collège, j'en parle pas, mais c'était vraiment, il y avait deux livres, c'était le dico des filles, le dico des garçons, voilà, heureusement, il y avait la littérature, mais bon, majoritairement patriarcale, donc... C'est vrai que ça n'aide pas beaucoup.
Sur l'écran brillant, journal télé, météo et publicité éclairent les repas. Le service communication se démène pour décomplexer. N'ayez plus peur de dire « j'aime la viande ».
Soit né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui, le plus important. Pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser, écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur. Quelques décades, je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade, et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez. En mettant bout à bout toutes nos solitudes, on pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé. Pas mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli.
raconter. Écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève. Qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite, ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler. Je voudrais que ces mots qui me sont une fête, on ne se dépêche pas d'aller les oublier. Que vous soyez critique ou plein de bienveillance, je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît. Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense. Je veux me regarder sans honte et sans regret, sans honte et sans regret. Pas mourir, écrire grimace et sourire, écrire et ne pas me dédire, dire ce que je n'ai su faire, dire pour ne pas me défaire, écrire, habiller ma colère, écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire et ne pas vivre triste et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. Et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos. Écrire et pas me foutre à l'eau. Écrire pour ne pas mourir, pour ne pas mourir.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1.
L'église en granit humide, enfumée par l'encens en juin. Aime ton prochain comme toi-même. Utilise le martinet, les orties au besoin. Les enfants de cœur portent l'aube blanche, lisent distinctement les fabulettes des cieux. Entre rires étouffés et culpabilité balbutiante, la réverbe imprime le tout dans la chair. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit voient, savent tout. Si la liturgie irritent les gorges qui en secret doutent, les fidèles trouvent dans leur poche des stop-tout. L'hostie a un goût de chips ramollis et de réglisse. Pendant que les cloches qui carillonnent couvrent les messes basses, les gars du café des sports offensent, regard fier amer, la procession qui conforte le conforme. Radio France passe mal, il n'y a que Radio Bonheur, la radio des agriculteurs, la radio zéro erreur. Tremblement de l'enfance avide d'autrement, on dirait que la télé parle, je me fige, c'est mon choix. Tailleur impeccable, collant gainant, bouche formulée dans le bon sens. L'animatrice balance les sujets qu'on n'ose pas mettre sur la table. De l'argent et du corps, on va tout dire, le public va rire, le public va applaudir. Fausse question, fausse réponse, talk show, small talk, spectateur naïf, professionnel, payé. Scénario respecté. Les cafés du port proposent des glaces au goût schtroumpf, mais les algues vertes sont bio. Binic est une petite boutique qui enfouit les tables sous la mer. Les Bretons ont le teint hâlé. Les touristes se projettent lunettes de soleil sur le nez. Armor luxe prête à porter.
Alors c'est Chute libre sur Aligre FM 93.1. Nous entendions « Mon corps de ferme » lu par Aurélie Olivier. « Mon corps de ferme » est un ouvrage de poésie publié aux éditions du Commun. Et nous avons la chance d'avoir aussi Juliette Rousseau avec nous, qui est l'éditrice. Et moi, je vais vous poser une question, c'est comment l'auteur, Aurélie Olivier, l'autrice, a rencontré l'éditrice? Comment ça s'est passé et comment le livre est-il né?
On s'est rencontrés dans un groupe de travail féministe en pleine campagne et il était question de parler chacune de nos projets en cours. Et donc j'ai parlé de mon projet qui était vraiment à l'état embryonnaire et Juliette m'a dit « mais en fait moi j'ai une maison d'édition et ça m'intéresse ce dont tu parles, envoie-moi ton texte ».
C'est quoi cette maison d'édition?
Eh bien, alors... ce sont les éditions du Commun. C'est une maison d'édition coopérative basée à Rennes, qui publie des textes de sciences humaines, de littérature et de poésie. Voilà.
De poésie depuis peu, je crois.
De poésie depuis moins d'un an.
Voilà,
le
c'est
texte
ça.
D'Aurélie est le troisième texte que nous avons publié.
Et les autres textes, c'est quoi ?
Alors,
c'était quoi ?
Alors, les autres textes, donc le premier texte s'appelle Fiévreuse plébéienne d'Élodie Petit, et le deuxième texte s'appelle Les matières de la nuit d'Olivier Marbeuf.
D'accord, donc ça, ce sont des textes de poésie d'aujourd'hui.
Oui.
Et on avait parlé un peu autour de tout cela précédemment, et vous m'aviez parlé, il y avait une expression que j'ai beaucoup aimée, c'est que les éditions sont publiées et s'intéressent à des textes ancrés. Et j'aurais bien aimé que vous développiez cela. C'est ancré quoi ? Ancré dans le territoire ? Ou ancré dans le texte ? Ou ancré dans la langue ? Ou ancré dans la féminité, le féminisme, la politique ? Voilà, je ne sais pas, ancré, c'est un très beau mot et très fort.
Alors, c'était le mot d'Aurélie, qui a rajouté ensuite, pour expliquer sa phrase... Il y en a marre des commentateurs du monde. J'ai trouvé que c'était une très bonne façon de le définir, effectivement. Ancré, je crois...
Pas le journal, du monde en règle générale.
Du monde en règle générale. Je crois qu'en tout cas, moi en tant qu'éditrice, ce qui m'intéresse dans la poésie, c'est effectivement de sentir qu'elle est écrite depuis une expérience réelle. Et je crois qu'en fait, on le sent très très vite. On voit tout de suite la différence, en fait. Et donc, c'est d'essayer de chercher des textes qui donnent à sentir une multitude d'expériences du monde, qui sont souvent des expériences minorisées, qui donnent à voir et à sentir le monde depuis des perspectives qu'on va moins entendre, de manière générale.
C'est-à-dire que c'est parce que comment il y a les commentateurs du monde, mais le commentaire du monde, ça dépend... Il peut aussi être très incisif et dire quelque chose. C'est le commentaire écarté.
Est-ce que ça part du corps ? Voilà, moi, je crois que ça, on pourrait peut-être le dire comme ça. Est-ce que ça part du corps ? Voilà. Est-ce que ça existe dans le corps, ce qu'on est en train d'écrire ?
C'est-à-dire que c'est un rapport à un questionnement sur la vérité de ce que l'on... Enfin, la vérité, l'intensité de vérité de ce que l'on dit.
Ou le vrai lien, en fait, et l'horizontalité.
Horizontalité, ça veut dire ?
Ça veut dire pas un regard surplombant, en fait.
D'accord.
Ouais. Qui...
On est dedans. Ou ça vient du dedans.
Ouais, et d'ailleurs, quand on surplombe, enfin, soit on n'est pas dedans, soit on fait semblant. Enfin, de toute façon, on est dedans, hein. Il n'y a pas le choix.
Et puis, je crois aussi, c'est de penser la poésie, ou de réinscrire la poésie à un endroit qui est fondamentalement lié au besoin, à la nécessité de transformer le monde. Donc, j'ai pas envie de dire poésie engagée ou poésie politique parce que je trouve que c'est plus compliqué. En tout cas, c'est plus que ça, de mon point de vue, la poésie. Mais c'est aussi ça. C'est aussi un outil parmi mille autres de rendre le monde un peu plus vivable. Et je crois que si on n'écrit pas en ayant ce besoin impérieux de rendre le monde plus vivable, je pense qu'on passe un peu à côté de ce que peut être l'écriture.
Mais alors, se pose la question du lecteur. Je pose la question du lecteur au sens fort du terme, c'est-à-dire que l'écriture de la poésie et la formulation d'un certain nombre de choses essentielles ou qui semblent essentielles à l'écrivain et à l'éditeur, l'éditrice, on comprend que ça peut provoquer des changements. Par contre, il s'agit aussi du lecteur, c'est-à-dire qu'il faut que cette poésie qui vient de l'ancrage intérieur de celui ou celle qui écrit puisse aussi être apporté quelque chose qui modifie la donne pour le lecteur.
Alors moi, j'ai une première réponse là-dessus, qui est que quand on cherche à publier des textes qui changent le monde, il faut évidemment se poser la question de la fabrication du savoir. Qu'est-ce que ça veut dire fabriquer le savoir ? Et des formes légitimes de savoir et d'écrit. De manière générale, quand on cherche à produire de la critique, la forme légitime, la plus légitime, c'est l'essai. Et d'ailleurs, aux éditions du commun, on fait beaucoup d'essais, mais on fait de l'essai comme des personnes qui cherchent à placer l'essai au sein, encore une fois, placer l'essai comme un outil de transformation du monde. Mais moi, je dirais, en tant qu'éditrice de poésie, qu'à un moment donné, et ça a été un cheminement pour moi, il m'est apparu qu'on avait aussi le droit à la poésie. Et donc, que y a quelque chose pour moi de remettre la poésie aussi à un endroit ancré au sens de populaire. La poésie a longtemps été une pratique très populaire. Et à un moment donné, elle a été disons qu'on en a été dépossédé. Et donc, je pense qu'Aurélie et moi, on partage ça, d'avoir grandi en ayant l'impression que la poésie était très loin de nous. À un moment donné, il y a aussi un acte, je dirais presque, de réappropriation, qui consiste à dire « la poésie est aussi quelque chose qu'on mérite et est aussi un outil parmi plein d'autres pour penser, pour agir sur la transformation du monde. » Voilà.
Mais c'est un outil très particulier en ce qu'elle est, tout en même temps qu'elle dit des choses, ou elle exprime des choses, elle s'auto-travaille sur le langage, je sais pas comment. Et donc c'est très spécifique quand même. Et ça me mène à la question, pourquoi avoir choisi pour parler de tout cela la poésie? Et là c'est à Aurélie que je pose la question, mais je peux aussi la poser à vous, Juliette.
Pour être le plus juste possible et pour avoir, et ça c'est une manière je pense de rendre le monde vivable, avoir sa propre langue quoi, avoir le droit à sa propre langue, aussi singulière soit-elle, à la fois singulière et commune quoi, partager une langue singulière, ce droit là ouais.
Et donc tout le travail c'est d'arriver à la rendre partageable,
c'est ça. Ouais.
En quelque sorte.
Mais c'est toute la question de l'universalité, c'est-à-dire est-ce que l'universalité se trouve dans le partage des spécificités, de ce qui fait la particularité de l'expérience, ce qui est, je pense, ce que ce type de texte vient défendre, et on fait un pari de dire nos expériences qui sont moins visibles ne sont pas moins universelles. Et je voulais juste rajouter un truc en t'écoutant, Aurélie, c'est il y a quand même pour moi une dimension, la fabriquer des esthétiques. Fabriquer de la, on pourrait même dire, moi je dirais fabriquer de la beauté avec la langue sur nos histoires. Moi quand je lis Aurélie qui fait de la poésie à partir de la matière de son enfance, pour moi il y a quelque chose de l'ordre de la réparation. Et qu'en fait on est plein à avoir partagé cette enfance-là et pour qui changer le regard, poser un regard poétique sur cette enfance et sur ce qui en fait la matière, c'est quelque chose de profondément... oui, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison, vraiment, je trouve.
L'émail brillant comme du quasi-diamant, les habits de la ville, de la zone commerciale, les vacances, buffets à volonté incluses, désormais les leurs sont dans nos moyens, mais la vraie histoire continue de nous trahir. Elle déchire jusque nos débuts de phrases. Je m'efforce de ramasser les miettes pour en faire des tas. Au goutte à goutte, j'en fais des tonnes. Mais il y a toujours un risque aussi. C'est un risque endémique au fait même de l'écriture poétique ou de la poésie. C'est quand on a trop quelque chose à dire, on le dit peut-être moins bien. Je ne sais pas comment dire. Quand on a trop envie de dire quelque chose, on le dit moins bien. Il faut que le langage s'y prête, l'accepte, fonctionne librement, justement avec la contrainte, entre guillemets, possible de la beauté ou du son ou de quelque chose qui ne dit que par allusion. De façon subtile. Enfin, c'est complexe d'utiliser la poésie pour dire. Ce n'est pas simple, en tout cas. Mais vous y arrivez. Vous nous lisez encore un texte?
Une pigiste à la page a publié dans un magazine féminin une top list. 10 bonnes raisons de sortir avec un agriculteur. La plus saisissante? Il a un parfum d'enfance. Elle écrit la campagne, les adorables petits veaux qui viennent de naître, les promenades en tracteur, les fleurs des champs et autres champignons qu'il vous ramène de temps en temps, les bottes à fleurs qu'il vous a offertes et que vous avez souvent l'occasion de porter. Tous ces détails qui vous ramènent en enfance. C'est grâce à votre agriculteur que vous les vivez au quotidien. Mesurant les dégâts de la télé-réalité, je propose ici la réalité est dans le pré. Et pour moi, l'aventure ne s'arrête pas là.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Dans cette nuit mal tombée, sur la mauvaise face, au pire des piles et au plus noir des jours, le jeune homme noir remonte enfin à la surface, se demande comment l'os, comment la chair peuvent-ils être si sombres. Alors quoi ? Vas-y, tourne, et lui, sur le disque, poisseux d'un soir, si ça se trouve, le sang, lui aussi, qui sait, n'est pas moins foncé de ce côté-ci de la vie. C'était un extrait de « Matière de la nuit » d'Olivier Marbeuf, qui est un autre ouvrage de poésie publié aux éditions du Commun. Donc Juliette Rousseau, vous pouvez nous dire un mot sur cet ouvrage ?
Oui, alors Olivier Marbeuf est un artiste multiple, qui a aussi été éditeur d'ailleurs. Et les matières de la nuit, en fait, fonctionnent en duo avec un autre texte publié aux éditions du Commun qui s'appelle « Suite décoloniale » et qui s'intéresse à la décolonisation de façades dans l'art contemporain. Voilà.
Il y a des très beaux passages dans cet ouvrage, je trouve. Moi, je lis là comme ça au passage. « Hier, nous avons dansé pendant plus de 10 heures sur un lit de sargasses. » C'est une très belle trouvaille, je trouve, à droite et gauche. Et alors, c'est quoi le fonctionnement de ce livre qui est en poésie en prose pour une partie et comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que ce livre?
Comment ça?
Ouais, comment il est constitué? Comment vous l'avez publié? Comment, voilà,
alors,
comment,
ouais. Voilà. C'est une série de différents textes en fait, qui ont été écrits à différentes périodes. Donc on a fait cette sélection ensemble et on avait vraiment envie qu'il fonctionne en écho avec l'essai. Notamment parce que donc, c'est le deuxième texte qu'on a publié dans cette collection de poésie.
Il a publié un essai sur le même sujet, c'est ça?
Oui, c'est ça, qui s'appelle Suite décoloniale, voilà, exactement.
Ça. Voilà. Ça, c'est intéressant. Oui. La version poétique de l'essai, oui. Théorique.
Voilà. Oui, complètement. Donc, effectivement, je pense que quand on lit l'essai, on comprend des choses et inversement. Mm-hmm. Ça éclaire un peu encore plus le propos.
Et il y a un autre ouvrage que vous avez apporté, je crois.
Alors, il y a un autre ouvrage qui s'appelle Fiévreuse plébéienne d'Élodie Petit, qui est le premier texte qu'on a publié dans cette collection.
Oui, allez-y, vous nous lisez un extrait, peut-être, ce serait magnifique.
Alors, je vous lis un extrait d'un texte qui s'appelle « Manifeste de la langue bâtarde ». La langue bâtarde est le fruit névrosé de l'accouplement d'une langue littéraire ténue avec un langage de rue, un argot rural, une langue de trottoir, un dialogue vide de repas de famille. Elle est vulgaire dans le sens où elle ne se soucie pas de sa réception. Elle est. Elle parle trop fort. Elle ne s'arrime pas là où il faut. Elle se contrefout des règles. Elle s'invente au fur et à mesure qu'elle raconte. Elle rappe. Elle écorche. Sa poésie naît du trouble, du mélange, du choc. Elle met en lumière les dysfonctionnements sociétaux d'une langue normée, autoritaire, institutionnelle. Elle est le diable, elle est incorrecte. Elle n'est pas là pour plaire aux hommes, à la bonne société, aux bien éduqués, aux lettres françaises, à la rentrée littéraire.
Et alors cet ouvrage, c'est le premier, donc c'est ça qui vous a décidé de publier de la poésie ou...
Non, alors nous, on avait décidé de publier de la poésie et puis il se trouve que à cette même... dans ce même lieu où on s'est rencontré avec Aurélie, on s'est aussi rencontré avec Élodie. Et donc ça, c'est un texte que Élodie avait déjà publié sous une forme un petit peu différente. Et donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup la poésie d'Élodie. Et donc quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit « Est-ce que tu accepterais de republier ton texte chez nous ?» Et elle a accepté.
C'est un texte qui ne va pas avec le dos de la cuillère, hein, j'ai remarqué.
Non, 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 mais le travail d'Élodie, de manière générale, ne va pas avec le dos de la cuillère, et c'est ça qu'on aime, voilà, beaucoup.
Oui. C'est drôle parce que dans votre propos, dans vos propos, Juliette, à propos de ce qu'on a évoqué, il y a tout à la fois, m'a-t-il semblé, une grande douceur attentive, sensible, et une espèce de véhémence presque mordante, voire pas agressive, mais qui pourrait l'être, qui se conjugue, et c'est ou une force, quoi, quelque chose de vivant. Et donc ça, c'est remarquable, et il en faut sans doute pour pouvoir publier des textes aussi intense que celui-là. Voilà, j'ai trouvé. En
merci.
Tout cas, merci.
C'est un très beau compliment.
Merci de nous avoir apporté ces ouvrages. On peut revenir un petit instant à Aurélie Olivier, à son corps de ferme, à notre corps de ferme, puisqu'on s'approprie le livre quand on le lit. On peut lire un texte. Peut-être que Aurélie, vous pourriez nous en lire un ou deux à nouveau.
C'est un remède de grand-mère vieux comme le monde. Donner un rouleau de réglisse aux enfants facilite leur transit intestinal. Mais quelques poignées de stop tout plus tard, ça gratte toujours. La tension entre mon intérieur et mon extérieur ressemble maintenant à un volcan au bord de l'éruption. Ça chauffe beaucoup, mais ça ne sort pas. La situation me décontenance d'autant plus que le plus haut point des Côtes d'Armor est une colline. Quelle est la profondeur de la partie immergée du Ménébré ? Comme j'avais déjà perdu pas mal de temps et que je le savais désormais compter, je me décide à prendre le mien quand je tombe sur une pancarte clignotante qui indique une adresse à la fois proche et lointaine. C'est celle d'une magnétiseuse qui habite au rez-de-chaussée d'une maison du peuple. Dès la première séance, je projette à fond. Elle a l'air un peu triste aussi, elle doit bien connaître son sujet. Et aussi, elle a accroché au mur une grande peinture rose, rouge et noire qui ressemble à ma peau qui désquame. Ce qui me démange moi, elle le met en lumière. Elle s'appelle Freddy et très vite, je deviens folle de son rapport à la parole. Mes portes se mettent à claquer et ça fait énormément de bruit. Freddy pense que c'est un bon signe. Encouragée, je m'emballe et fendis même quelques cloisons supplémentaires. Les joints craquellent, la façade s'humidifie. Je retrouve mes débuts de phrases. Ils se lient les uns aux autres jusqu'à détacher des phrases entières qui ne font plus semblant. La ferme me lâche, je sors de terre.
Devoir risquer sa peau pour la sauver, exuvie à vie. Imposer la jachère, se rêver génisse, s'inventer talus. Je sais la rivière bien polluée, mais maintenant que tu as lu, mon corps de ferme déjà s'effondre, mon corps de ferme s'effondre. Merci beaucoup Aurélie Olivier pour ce beau texte, Mon corps de ferme, pas uniquement beau, d'ailleurs beau, mais parlant, impressionnant sur des sujets qui nous touchent et qui nous harassent à certains égards. Merci beaucoup Juliette Rousseau d'avoir publié ce livre d'abord et ensuite d'être venue nous parler de votre maison d'édition, de vous-même, et peut-être qu'un jour on pourra se parler de vos écritures. Merci à toutes deux. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.